Voilà, ce temps de reconfinement a été attendu par certains, ou du moins prévisible par certains. C'est vrai que ce confinement, ce reconfinement nous pose la question, nous m'a posé la question, à savoir ce que l'État attend de nous. Ça veut dire donc, c'est le synonyme de rester chez vous, fermer la porte. Et c'est ce thème de la porte. Qui va nous amener ce matin dans une méditation sur l'affirmation de Jésus qui dit « Je suis la porte ». En Jean chapitre 10, Jésus leur dit encore au verset 7 « en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte », affirme Jésus. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, voici que Jésus affirme un grand je suis. Et c'est vrai que si pour nous, dans nos traductions, ce je suis est juste une construction de phrases, les je suis de Jésus font référence à la révélation de Dieu à Moïse. Lorsque Moïse lui demande au buisson ardent, qui es-tu? Qui m'envoie vers les Israélites, mes frères? Dieu lui répond, tu leur diras que je suis celui qui suis. Il est évident que ces je suis font référence à la révélation de Dieu. Et quelque part, ces je suis sont, pour les auditeurs de Jésus, quelque chose d'assez surprenant, voire blasphématoire pour ses adversaires religieux. Alors Jésus a affirmé qu'il est le bon berger, la lumière, la vérité, la vie, la résurrection. Alors, ce n'est pas un égocentrisme de la part de Jésus de recentrer les choses sur lui, mais quand il affirme « Je suis la porte », il veut nous laisser une vérité gravée dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'une porte? Eh bien, une porte, c'est une ouverture aménagée qui nous permet de passer d'un lieu à une autre. Un accès qui nous permet d'entrer dans un espace clos et d'en ressortir. Que veut dire Jésus à travers ce « Je suis la porte » Une porte peut s'ouvrir, peut se fermer. On peut en refuser l'accès. Une porte nous donne à entrer dans un domaine qui peut être plus ou moins grand. On peut penser dans son livre Narnia de C.S. Lewis qui montre que l'accès au monde de Narnia était à travers la porte de l'armoire qui cachait un secret. Alors, quel est le secret que Jésus veut nous révéler? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais avec vous vous dire que si le Seigneur affirme une vérité, parallèlement, notre monde nous propose aussi ses propres vérités. Si Jésus enseigne une grande vérité en disant qu'il est la porte, notre monde aussi nous propose des portes. Et je vous propose dans un premier temps de voir ces portes qui se proposent à l'homme. Et puis on verra ce que veut dire Jésus en disant « Je suis la porte ». Alors nous pouvons frapper à une porte et le monde nous promet le bonheur, l'accès à cette merveilleuse situation de la porte du succès. Alors mieux vaut le dire maintenant, bien sûr, la Bible n'est pas contre le succès, mais elle nous met en garde contre la place que prend ce succès. Vous savez, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, même les succès légitimes, eh bien, peuvent atténuer la présence de Dieu pour nous. Alors, la porte du succès, c'est une porte qui brille. C'est celle qui offre la popularité aux hommes, l'autorité, la richesse, la supériorité par rapport à d'autres. Et cette porte du succès demande beaucoup de sacrifices. Certains étudient des heures et des jours, des mois et des années pour obtenir ce succès. Et parfois, ce sacrifice se fait contre le temps offert aux autres ou même, et certainement, offert à Dieu. Je me souviens de cet étudiant qui un jour me disait, je ne peux plus venir à l'église parce que, vois-tu, je m'engage dans une vie d'étudiant à l'université maintenant et je n'aurai plus le temps de prendre mon temps avec Dieu. Donc, le dimanche, vous ne me verrez pas au culte. Voilà que cette séduction de la porte du succès l'avait entraîné à un sacrifice. Et ce qui est dramatique, c'est que ce sacrifice, eh bien, la première personne que l'on sacrifie, c'est ce temps, la première chose, c'est ce temps avec Dieu. Bon, Dieu merci, l'histoire de cet étudiant se finit bien. Hein. Cette porte du sacrifice, nous pousse à un certain orgueil, à penser que nous arrivons par nos propres forces et par nous-mêmes. La porte du succès. Et l'apôtre Paul rétablit les choses, par exemple, en 1 Corinthiens 7, 4, verset 7, lorsqu'il dit: Qu'est-ce qui te distingue finalement? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? En réalité, chers frères et sœurs, toutes les capacités que nous avons, eh bien, nous viennent de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Cette porte du succès, c'est les dons que le Seigneur nous a donnés, des choses qu'il nous a accordées, des capacités que nous devons mettre au service du Seigneur. Alors, combien se sont engouffrés dans cette porte pour des gloires éphémères? Et la porte du succès est une porte dangereuse, car c'est le cœur de l'homme qui s'écrie: À moi la gloire, à moi la réussite, alors que le Seigneur Dieu dit: Je ne laisserai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Il y a aussi une autre porte. On vient de parler de la porte du succès, une autre porte qui s'offre au monde, qui s'offre aux hommes dans ce monde, la porte du plaisir. Et là aussi, disons-le, la Bible n'a rien contre les plaisirs, contre les bons moments que nous pouvons passer. Mais elle nous met quand même en garde contre ces plaisirs qui deviennent l'objectif de notre vie. Paul dit: Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Vous savez, il y a des choses que l'on fait avec plaisir, mais si ces choses-là nous absorbent et nous font prendre trop de temps ou trop de préoccupations et d'occupations, eh bien, elles peuvent devenir nocives pour nous. À moi la belle vie, à moi le bon temps. Ces plaisirs peuvent faire naître aussi les désirs de la chair. Et finalement, quelque chose qui était agréable peut nous rendre malheureusement esclaves. On pense à l'homme riche, par exemple, et Lazare dans cette parabole, où cet homme avait tous les plaisirs de la vie possibles et même légitimes. Il se réjouissait avec ses amis, il est certainement de bons moments avec sa famille et son entourage. Mais cette porte du plaisir qu'il avait passée et ce chemin qu'il avait suivi l'ont amené à être indifférent devant Lazare qui souffrait. Voyez, cette porte du plaisir a aveuglé l'homme riche et l'a aveuglé par rapport à l'état, au triste état du monde autour de lui. Attention que cette porte du plaisir ne vole pas notre préoccupation des autres, notre amour pour les autres, au point de nous entraîner qu'à la satisfaction personnelle. Voilà des portes qui peuvent être un piège: succès, plaisir. Et puis j'allais en citer un autre, c'est celui de la facilité. Vous savez, ce sont ces portes à ouverture automatique que nous voyons devant les magasins, qui nous invitent à franchir le pas sans trop de difficultés pour pousser cette porte. Alors ça peut être la facilité de la paresse par rapport au travail, la facilité de se laisser à la colère, de se laisser à l'amertume, à l'hypocrisie, à la rancune, à l'impatience. Et combien la liste est longue. On pourrait presque dire que, comme dit Jésus, large est le chemin et spacieux, et la route qui mène à la perdition. C'est une porte facile d'accès, une porte qui finalement a ce slogan, cette devise: Puisque tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Alors il est évident que la vie du chrétien est une vie de disciple. Et le mot disciple a donné discipline. Tout ce qui est facile n'est pas forcément apprendre. Il faut, devant le Seigneur et dans la prière, réfléchir en disant si cette facilité nous amène à une tiédeur spirituelle, eh bien il vaut mieux se laisser conduire et discipliner même par le Seigneur. Alors voilà que ce monde propose aussi des portes. Et quand Jésus dit « Je suis la porte », le diable, l'ennemi de nos âmes, eh bien c'est très bien que cela va le mettre dans l'embarras. Et que fait-il? eh bien, il va essayer de jouer avec nous, avec nos âmes. Hein. Il va laisser entrouvertes ses portes et va nous inviter à y entrer. Vous savez, c'est un peu comme l'image de cette courtisane dans le livre des Proverbes au chapitre 7, où elle invite à venir chez elle. Donc, ce jeune homme qui traîne, qui ne sait où aller, qui, voilà, qui est inconscient du danger, et elle va vers lui, elle lui dit, je suis sorti, donc elle a franchi sa porte, au-devant de toi, pour te chercher, je t'ai trouvé. Et elle l'invite à franchir de nouveau sa porte pour entrer chez elle. Alors le diable arrive aussi à fléchir les hommes de ce monde, à nous fléchir par son savoir-faire. Et le proverbe dont il est question au chapitre 7, verset 26, conclut en disant, ils étaient forts, ceux qui sont ainsi tombés. Oui, Jésus nous dit qu'il est la porte et l'ennemi nous propose aussi d'autres portes. Alors, quelle est la spécificité de la porte de Jésus? Quelle est cette vérité qui est attachée à son affirmation? Eh bien, tout d'abord, lorsque Jésus dit « Je suis la porte », il nous indique qu'il est celui qui nous donne accès à la vie éternelle. Il est l'unique porte que nous pouvons franchir pour avoir accès à Dieu. Et la clé, c'est la foi. Jésus a dit que nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 14, 6, après avoir affirmé qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Voici qu'il n'est pas une porte, mais qu'il est la porte qui nous permet d'avoir accès au Père. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ceux qui ont franchi la porte appelée Jésus. La deuxième des choses, c'est qu'on peut dire que franchir la porte de Jésus, lorsqu'il est la porte, eh bien, on peut dire qu'il n'est pas la fin, mais le début de notre histoire, notre vie chrétienne. Tim Keller, pardon, disait, la plupart des religions affirment que la porte du salut est au bout du chemin. Le christianisme, lui, déclare que la porte du salut en est le début. Jésus a dit dans Jean 10, verset 9, et nous l'avons lu, celui qui entrera par cette porte, et il sortira, et il ira vers des pâturages. Alors, il est évident que franchir la porte qu'est Jésus, c'est une liberté qui nous est offerte. Et il y a là tout un chemin, et c'est le chemin de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, je pense que parfois nous sommes troublés par nos préoccupations de tous les jours. Ça peut être très légitime, mais nous devrions chaque jour, chaque matin de notre vie, proclamer que nous avons accès à cette nouvelle vie, à la vie que Jésus nous accorde. Alors, je pourrais dire que une troisième chose, donc Jésus est l'accès à la vie éternelle, Jésus est la porte et le chemin de notre vie, mais il est aussi pour toi qui crois, pour moi qui crois, il est aussi cet accès à la parole de Dieu. La porte qui nous ouvre la compréhension de ces prophéties qui se sont réalisées en lui, ces pâturages de la vie de Dieu, de la volonté de Dieu. Et on pourrait dire que les loups dont parle Jésus, puisqu'il est le bon berger, et que les loups viennent pour ravir les brebis, eh bien ces loups, ce sont toutes ces portes qui se présentent à nous. Il y a là maintenant donc ce chemin de la sanctification où Jésus affirme, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. À travers nos difficultés, notre confinement de nouveau, où nous devons fermer les portes, eh bien, il reste quand même pour nous, chrétiens, de vivre cette vie en abondance. Je finirai ma conclusion en disant ceci, que bien sûr, nous vivons des temps particuliers, difficiles, qui nous touchent tous. On peut songer à la parabole des 10 vierges. Vous savez, il y avait parmi elles 5 sages. Et 5 folles, mais elles étaient toutes concernées par la limite humaine. Elles sont toutes endormies jusqu'à la venue de l'époux. Les unes n'avaient pas d'huile, les autres avaient de l'huile. Ce que je veux dire, c'est que dans cette parabole, en réalité, nous sommes tous à la même enseigne. Les vierges sages, comme les vierges folles, se sont endormies. Ce reconfinement nous met tous, quelque part, à la même enseigne. Mais c'est la présence du Seigneur dans notre vie, cette porte que nous avons franchie et ce chemin que nous suivons, cette présence du Saint-Esprit, cette vie spirituelle en Jésus qui fera toute la différence lors du retour de notre Seigneur. Alors, si nous avons des portes fermées extérieurement, que les portes de nos cœurs puissent rester véritablement ouvertes. Continuons à aimer, continuons à prier, continuons à témoigner autour de nous avant que la grande porte du salut ne soit définitivement fermée. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui nous visite tous les jours, et qu'il nous fasse aussi grandir dans sa présence.